Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Amérique est de retour après des mois de blocage. La Chambre des représentants a voté samedi une nouvelle aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Une aide plus que la bienvenue au moment où la Russie est à l'avantage et de nature à rebooster le moral des Ukrainiens qui, après 2 ans de guerre, manquent d'hommes et de munitions sur le terrain. Alors question, pourquoi ce changement de pied des Américains? Donald Trump aurait-il changé d'avis? Et si oui, pourquoi? Est-ce un coup dur pour Vladimir Poutine de voir ainsi les Occidentaux, Américains et Européens unis derrière l'Ukraine? Et cette aide peut-elle renverser la situation et permettre à Kiev de reprendre l'avantage? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir « Ukraine, le revirement américain ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Patrick Dutartre. Vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien pilote de chasse. Anne Niva, vous êtes reporter de guerre. Votre livre « La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre », c'est aux éditions Flammarion. Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France. Votre livre « La plus résistante de toutes » qui sort en édition poche cette semaine. Et enfin, Guillaume Lagan, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense et des relations internationales. Votre livre « Questions internationales », c'est aux éditions Ellipse. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Nicole Bacharan, vous, la grande spécialiste des États-Unis, est-ce qu'on peut parler d'une surprise, cette aide qui a été largement adoptée hein, par 311 voix contre seulement 112 contre?
Mais écoutez, c'est vrai qu'on l'attend depuis le mois d'octobre et que depuis le mois d'octobre, c'était bloqué, après avoir été adopté au Sénat, c'était bloqué finalement par un seul homme, le speaker Mike Johnson, dont je sais on va parler pas mal, parce que son évolution personnelle a joué un rôle important. Et c'est vrai qu'il était celui qui refusait de mettre le projet d'aide. Donc
c'est l'équivalent du président de la Chambre des représentants.
Mais patron des républicains.
Il est patron des républicains.
Et il refusait de mettre ce vote à l'agenda. Alors qu'en combinant les républicains qui étaient pour, les démocrates qui étaient tous pour, il y avait largement de quoi faire passer cette loi. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Alors Mike Johnson, finalement, il a joué assez finement, je dois dire. Il a commencé par aller à Mar-a-Lago, voir le vrai chef. Il est allé voir Donald Trump. Et il lui a fait pas mal de concessions qui plaisent à Donald Trump. Il lui a notamment, alors c'est un petit peu technique, mais c'était important, concédé qu'une loi américaine qui date des années de lutte contre le terrorisme et qui permet de mettre sur écoute des Américains en rapport avec des correspondants étrangers sans passer par un juge. C'est une loi renouvelée tous les 5 ans. Donald Trump n'en voulait à aucun prix parce qu'il dit c'est une honte. Certains membres de mon équipe ont été mis sur écoute pendant la campagne de 2016. Donc le speaker l'a proposé, l'a fait voter d'ailleurs un renouvellement de 2 ans. Ce qui fait que si Donald Trump est élu, il pourra s'en débarrasser. Le speaker a également dit à Donald Trump, je vais proposer des mesures pour préserver l'intégrité des élections. Ça veut dire, je reconnais que vous avez gagné en 2020, sans le dire tout à fait, ça plaît toujours. Enfin, il a introduit dans l'aide à l'Ukraine l'idée que ça pourrait être un prêt, ou en partie des prêts. Donc pour Donald Trump, qui dit toujours ça nous coûte trop cher, ça lui a plu. Ce qui fait que...
Les Ukrainiens devraient, le cas échéant, rembourser
une partie.
Ce qui fait que Johnson a quitté Mar-a-Lago avec l'aval de Donald Trump, qui en gros a dit, je veux qu'il reste speaker.
C'est le parrain quand même, parce qu'il n'est pas élu.
Il gouverne sans aucun mandat. Et le speaker lui-même, donc, qui était tout à fait contre, qui est un élu de Louisiane, très religieux, un évangélique ultra-conservateur, tout à fait contre l'aide à l'Ukraine au début, a évolué parce qu'il a eu beaucoup de discussions avec les services secrets, avec le patron de la CIA, qui lui a expliqué que l'Ukraine était en train de perdre la guerre, que Vladimir Poutine ne s'arrêterait pas là. Beaucoup de pression aussi des leaders du Sénat. Et finalement, Mike Johnson qui a tranché, si vous voulez, à ce moment-là en tout cas, entre le parti républicain de Reagan, qui était attaché à la défense de la démocratie dans le monde, au rôle international des États-Unis, et au parti républicain MAGA, Make America Great Again, de Trump, qui sont des isolationnistes bornés sur le seul thème, ça nous coûte trop cher. Et Mike Johnson a dit, j'ai prié, je veux faire ce qui est juste, l'histoire nous regarde, mon fils va rentrer à l'Académie navale, c'est pas une plaisanterie. Et donc, il a mis aux voix et c'est largement passé.
Guillaume Lagan, finalement, c'est le retour des Républicains à l'ancienne, j'allais dire. Hein. D'ailleurs, Mike Johnson, qui a décidé de mettre à l'agenda cette aide à l'Ukraine, dit « Je crois que Xi, Vladimir Poutine et l'Iran forment l'axe du mal. » L'axe du mal, c'était George Bush.
Enfin, il n'a rien inventé. Hein.
Absolument. Ouais.
Les Républicains à l'ancienne, façon Bush, Reagan même, qui s'est exprimé samedi aux États-Unis.
Pour compléter ce qu'a dit Mme Machin, je pense qu'il y a trois éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est qu'au tout début de la discussion, les Républicains avaient un objectif qui était de lier l'aide internationale au meilleur contrôle de l'immigration, qui est un sujet qui intéresse beaucoup plus les Américains, parce que c'est une question intérieure, que les questions internationales qui sont un peu éloignées de leur centre d'intérêt. Et donc, Mike Johnson est un Républicain un peu à l'ancienne, parce qu'il a su effectivement manœuvrer dans le droit parlementaire américain, qui, vous savez, le droit parlementaire américain, c'est peut-être le droit le plus compliqué du monde. Hein. Il est extrêmement difficile de le suivre. Et donc, il a réussi en sectionnant, en fait, les votes et en faisant qu'il y ait un premier vote sur le contrôle de l'immigration, un deuxième sur Taïwan, un troisième sur l'Israël. Et donc, en faisant ça, il a réussi finalement à distinguer des problèmes qui, une fois qu'ils étaient ensemble, semblaient un nœud gordien qu'on n'arrivait pas à trancher. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur le fond du fond, oui.
Parce qu'on disait les Américains et les Républicains isolationnistes. Ils viennent de le montrer qu'ils ne le sont peut-être pas tant que ça. Joe Biden a dit, l'histoire vous regarde,
oui,
messieurs
les élus. Ils ne le sont pas tant que ça. Quand on regarde les votes, c'est quand même un peu inquiétant. Parce que, effectivement, la majorité, elle a été atteinte avec le Parti démocrate. Là, je parle du vote sur l'Ukraine, qui a voté massivement pour l'Ukraine. Mais quand on regarde les Républicains, ils sont quasiment divisé à peu près à moitié le groupe républicain entre ceux qui ont voté en faveur de la loi et aussi de Mike Johnson et ceux qui ont rejeté la loi, mais au-delà aussi rejettent d'ailleurs Mike Johnson, certains demandent sa démission. Et donc eux sont non seulement sur non seulement ils sont sur un point de vue isolationniste en disant c'est l'argent du contribuable qui sert à arroser nos alliés, c'est à eux de le faire, pas à nous. Donc une vision effectivement un peu étroite, que par ailleurs on a pu combattre en expliquant que cet argent il allait quand même servir à payer l'industrie américaine qui va fabriquer les munitions qui seront données aux Ukrainiens.
L'argent qu'ils donnent aux Ukrainiens va revenir en commande
d'équipements américains. Mais je dirais que ça va plus loin que ça, et ça quand même c'est assez inquiétant, parce que non seulement c'est de l'isolationnisme, ça on le sait, on le connaît, mais il y a une large partie des députés républicains, des représentants républicains, par exemple Mme Marjorie Taylor Greene, qui reprennent des éléments de langage du Kremlin. C'est-à-dire que non seulement ils sont isolationnistes, mais ils ont même une certaine forme de sympathie pour la Russie, pour les ennemis de l'Amérique. Et ça, franchement, c'est quand même très nouveau. Là, on est vraiment dans un territoire complètement nouveau. D'habitude, ces positions-là, elles étaient marginales au sein du Parti républicain. Elles existaient chez le tiers-parti, vous savez, ceux qui n'étaient ni républicains ni démocrates, les libertariens, mais c'était quand même très minoritaire. Là, on parle de dizaines et de dizaines, enfin même de centaines d'élus républicains
Nicole
américains.
Nicole Bacharan, il y a des élus américains qui sont pro-Poutine ou qui ont de la sympathie envers le régime?
Oui. Je pense qu'on peut le dire, comme vous l'avez introduit, directement. Marjorie Taylor Greene, qui est une élue de Géorgie, c'est une ultra-trumpiste, même en ce moment plus royaliste que le roi, plus trumpiste que Trump, et qui diffuse les éléments de langage du Kremlin. Elle dit que non seulement l'Ukraine est corrompue, mais que Volodymyr Zelensky fait une guerre contre les chrétiens, alors là, il faudrait qu'on m'explique, mais bon, et qu'il fait exécuter des prêtres. Donc elle est dans un délire complotiste qui en soi ne gêne pas Donald Trump. Et ça, mais les calculs de Donald Trump, ils sont électoraux. Et il a bien compris que si, et c'était ce qui se passait ces derniers temps...
Est-ce que son procès d'ailleurs peut expliquer une partie de son positionnement? Parce qu'actuellement, il est sous le coup d'un procès où il doit se taire. En plus, c'est assez compliqué, non?
Ça fait une semaine que ça dure et ça va durer encore 5 à 6 semaines.
C'est un supplice pour lui, il doit écouter les gens l'insulter.
C'est un véritable supplice.
Racontez-nous. Les témoins commencent aujourd'hui.
Racontez-nous.
On l'imagine mal se taire.
Il doit 4 jours par semaine... 7 à 8 heures par jour. Il doit être assis, sans parler, sans se servir de son téléphone, sans lire le journal, sans recevoir tous les messages que ses assistants sont chargés de lui imprimer. C'est son mode de vie. On lui imprime tout le temps des messages ou des articles où on dit que Trump est formidable. Et là, il est vraiment seul au monde face à un juge qui, quand il cherche à se sauver, lui dit « Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît ». Et il sort de là, mais hagard,
épuisé. – Qu'est-ce qu'il écoute pendant ces heures durant ?–
Alors, pendant toute la semaine où on a sélectionné les jurés étaient interrogés pour qu'on sache est-ce qu'ils peuvent juger ce cas de manière impartiale ou est-ce qu'ils ont déjà tranché coupable ou non coupable. Donc, il a dû entendre des gens bon, qui trouvaient qu'il n'était pas si mal, mais enfin, à Manhattan, il n'y en a pas beaucoup. Donc, des gens qui disaient que c'est un véritable psychopathe, c'est un vrai dingue.
– Et il ne peut pas répondre. –
Et il ne peut pas répondre. Donc, c'est très pénible et on va voir ce que ça donne sur la durée, mais je pense que ça lui sape un peu de son énergie. Ça ne lui est jamais arrivé. Il a perdu tout contrôle sur ses journées. Et je disais, il fait toujours un calcul électoral, donc le complotisme ne le gêne pas, mais un congrès qui ne fonctionne plus du tout, et on peut se dire c'est la faute de Donald Trump, oui. Un Vladimir Poutine qui gagne, et où les Américains se disent, mais en fait, c'est la faute de Donald Trump, alors que la Russie, ça reste l'ennemi traditionnel quand même, c'est l'ancienne URSS, il a compris que c'était pas bon pour lui.
Ah oui, alors général Patrick Dutarte, voilà, parce que le résultat, c'est que les élus américains ont massivement voté ce plan d'aide contre la Russie, l'héritier de l'URSS. Mike Johnson, toujours lui, là, le speaker, le président de la Chambre des représentants, a dit, je préfère aider plutôt que d'envoyer des GI sur le terrain. Et alors, il y a ce sondage qui montre qu'effectivement, les deux tiers des Américains se disent, enfin, près des deux tiers, sont favorables à aider l'Ukraine. Il n'y en a que 36% qui disent que les Américains en font trop pour aider l'Ukraine.
Oui, moi, c'est exactement la phrase qui m'a le plus marqué dans le vote. Alors, quand même, un petit mot sur le vote. Quand on fait les 112 par rapport aux 400, finalement, de la Chambre des Congrès, c'est un quart. Hein. Oui. C'est un quart d'ultra contre ce vote. Ça prouve que, quand même, il y a 75% des Américains qui étaient pour, enfin, en tout cas, des progressistes pour aider l'Ukraine. Et ça, c'est phénoménal. D'ailleurs, à mon sens, c'est un vrai tournant pour cette guerre, en tout cas en 2024. Là, d'habitude, je n'aime pas parler de tournant, mais là, vraiment, on a une inversion de tendance où vous aviez le moral en Ukraine qui descendait. On faisait des commentaires sur les plateaux en disant « ça va mal, ça va mal, ça va mal ». Là, c'est un changement mais majeur parce que l'armement dont a cruellement besoin les forces armées ukrainiennes va arriver très rapidement. Hein. Il faut que ce soit cette semaine, hein. La signature au Sénat. Il y a des stocks qui sont prêts. Donc, ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de jour. Le premier point. Le second point, c'est le moral. Le moral à la fois pour les dirigeants Zelensky, on l'a entendu, pour la population. C'est primordial, le moral pour la population ukrainienne. Et puis après, bien sûr, le moral des troupes. Ça, c'est déterminant. Il faut trois choses, vous savez, pour combattre dans un conflit de cette ampleur. Un, de l'armement. Deux, des hommes. Ça, c'est comme un vrai sujet au niveau des Ukrainiens, hein, parce que, d'ailleurs, côté russe également, mais côté ukrainien, c'est quand même critique. Hein, les mêmes soldats qui sont sur le terrain depuis plus de deux ans, hein, qui veulent être relevés, il n'y a pas possibilité. Donc là, c'est un vrai sujet dont on a déjà parlé, mais qu'il faudra à nouveau l'évoquer. Et le troisième, eh bien, c'est le moral. C'est l'engagement des gens. Et ça, c'est primordial. Donc tout ça, avec ce vote, si vous voulez, il y a un retournement, et puis ça va arriver très vite, hein.
C'est vrai qu'Anniva, on va regarder la une de La Croix ce matin, qui titrait « L'Amérique est de retour ». Il y a un petit côté, toute chose pas égale par ailleurs, un petit côté 6 juin 44 un peu là, non Alors avec des dollars, hein, pas avec des GIs.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut souligner que le soutien américain, ça n'est pas que des armes, ça n'est pas que de l'armement, c'est aussi de l'espoir. C'est véritablement ça. Le général parle de morale. Moi, je dirais le mot espoir. Et Mike Johnson, ce chrétien évangélique dont on a parlé, qui a joué un rôle capital, lui, il a gagné en respectabilité.
Absolument.
Voilà. Il est devenu respecté. Donc, c'est pour ça qu'il a finement joué, cet homme, qui a eu besoin de voix démocrate alors qu'il est républicain. Enfin, bon, on ne va pas refaire l'histoire. Nicole nous l'a très bien expliqué. Mais je crois que c'était ça. Donc, vous avez vu, il y avait des petits fanions, des drapeaux ukrainiens qui ont été été brandi à l'issue de ce vote. Donc ça, c'est toute la mise en scène, disons, américaine, après quand même des tergiversations qui ont duré pendant des mois et des mois. Donc
l'histoire se termine bien. L'Amérique est au rendez-vous. Joe Biden a dit « History is watching you hein. ». Voilà, l'histoire vous regarde.
Exactement. Et d'ailleurs, cet homme croyant, Mike Johnson, il a dit « Moi, je veux faire ce qui est juste oui. ». Bon, moi, simplement, je dirais avec un tout petit peu d'ironie, c'est qu'il aurait pu le faire un peu plus tôt, et c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'être briefé par les services de renseignement américains pour comprendre que l'Ukraine était au bord de l'effondrement militaire. Si vous voulez, tout le monde le comprenait, ça. Donc c'était un petit peu bon, des manœuvres politiciennes, mais ça a marché. Complètement.
C'est vrai que certains l'ont comparé à Churchill, je me dis c'est quand même
non, là, c'est un peu beaucoup d'honneur. Un petit peu exagéré, tout
mais
à
je
fait.
Reprends ce que, oui, mais juste une seconde, ce que disait Axel sur 1944, la cavalerie arrive. Quoi. Les Américains sont là, et malgré tout, oui, sur le moral, sur l'espoir. Oui.
Et alors justement,
on sent le vent d'optimisme sur ce plateau. Guillaume Lagan.
Non, mais le bémol que j'y vois, c'est qu'effectivement, c'est très intéressant, cette comparaison avec 1944, c'est ce que tout le monde a à l'esprit. Mais je trouve que du coup, on retombe encore dans nos travers, parce que ce qu'on a vécu depuis octobre dernier, c'est l'absence des États-Unis. Et du coup, ça a créé chez nous une espèce de débat un peu hystérique sur peut-on se substituer à l'Amérique ? Faut-il se substituer à l'Amérique ? Le peut-on avec nos moyens limités ? Et moi, d'une certaine manière, je trouve que c'était un débat assez sain, parce que ça obligeait les Européens à être devant leurs responsabilités. Or là,
très loin dans ce débat.
Bien sûr qu'on est tous heureux que l'Amérique soit de nouveau à nos côtés, et évidemment, ils le feront avec des moyens qui sont démesurément grands par rapport aux nôtres. Mais en même temps, si vous voulez, ça nous renvoie aussi un peu à notre pusillanimité, parce que derrière, ce n'est pas nous qui, du coup, allons aider l'Ukraine alors qu'elle en a besoin, ce n'est pas nous qui allons lui fournir les moyens militaires dont elle a besoin. Il y avait même eu un débat, à un moment donné, sur une intervention directe de l'Ukraine. Or là, je trouve que l'erreur à ne pas commettre, c'est justement de tomber dans l'idée qu'on revient à la situation ex ante, l'Amérique est là, on n'a plus besoin de s'en occuper, il faut absolument que les Européens... Non, mais je dis pas que c'est ce qui va se passer.
Mais
je
pense
que chez beaucoup d'Européens, il y a l'idée, bon, mais voilà, ça y est, l'Amérique est de retour.
Le boss est revenu.
Voilà, inutile de faire les efforts considérables qui seraient nécessaires.
Oui, généralement.
Non, c'est pas du tout, parce que Guillaume a raison, il y a six mois, là, c'était un électrochoc, ça, je suis bien d'accord, dans tous les pays européens, en se disant, oh là, mais il est possible que les Américains ne soient pas là si on en a besoin, quoi. Donc, c'était vraiment un choc. Mais par contre, moi, je vois une mobilisation sans précédent dans l'histoire. Sans précédent.
Tous les pays. Européen.
Au niveau européen. Ça a rallié l'Europe. En ce moment même, il y a une réunion d'ailleurs des ministres des Affaires étrangères qui se passe en ce moment même au Luxembourg. Mais tout le monde parle que de ça. C'est-à-dire, il faut une indépendance stratégique de l'Europe. Ça, maintenant, ça va être... Le discours du président Macron, mercredi, sera extrêmement intéressant. Thierry Breton, hier, reparlait de ça. Il a fait le tour de toutes les capitales pour qu'on s'organise, qu'on soit autonome sur le plan militaire, sur le plan politique.
On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, mais c'est un chemin.
Et moi, je pense qu'effectivement, on ne revient pas au statu quo ante. Je pense que ce qu'on ne peut pas ne pas voir, c'est quand même, au niveau mondial, le désengagement. La volonté américaine de désengagement de différentes causes dans le monde. On l'a vu, enfin moi j'ai couvert la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Je vous rappelle que le président Volodymyr Zelensky ukrainien a dit récemment, hier ou avant-hier, que ça ne serait pas un second Afghanistan, ce à quoi on aurait droit en Ukraine, c'est-à-dire qu'il prend la référence de l'Afghanistan, qui est un échec pour les États-Unis, puisque en Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir. C'est donc bien un échec total pour les États-Unis. Donc il promet que ça ne sera pas un second Afghanistan, sous-entendant que donc l'Ukraine va gagner, mais c'est compliqué, parce que c'est à double tranchant de citer l'Afghanistan comme référence quand on
parce
parle.
Parce que pour eux, c'est le cauchemar, l'erreur à le faire.
Voilà, absolument.
Alors, les Ukrainiens ont donc poussé un grand ouf de soulagement ce week-end après le vote de la Chambre des représentants américaine d'un grand plan d'aide de 60 milliards d'euros. Un soutien vital pour les Ukrainiens dont les forces s'amenuisent sous la pression de l'armée russe qui gagne chaque jour un peu plus de terrain. Sujet de Luca Campisi et Aurélie Saner.
C'était un vote très attendu.
Le texte passe sans aucune objection déposée.
Plus de 60 milliards de dollars accordés à l'Ukraine, principalement dédiés à l'achat d'armement.
L'histoire nous regarde aujourd'hui. Notre position dans le monde est en jeu à travers notre vote. Nous pouvons choisir le déshonneur ou choisir d'aider des amis opprimés par des voisins forts et malveillants.
Un plan d'aide approuvé par la majorité des représentants américains après des mois d'opposition côté républicain et malgré les réticences de Donald Trump.
Le texte propose une stratégie pour la fin de guerre en Ukraine. Il comprend un mécanisme de prêt et une loi pour garantir que les actifs russes soient utilisés pour payer une partie de la facture.
À 9000 km de là, soulagement et remerciement de Volodymyr Zelensky.
Cette aide va renforcer l'Ukraine et envoyer aux criminels au pouvoir un message puissant. L'Ukraine ne sera pas un deuxième Afghanistan.
Mais hier, un ton déjà plus alarmiste concernant les livraisons de ces batteries anti-aériennes.
Beaucoup de temps s'écoule entre les décisions politiques et le fait d'infliger de véritables défaites à l'ennemi sur le front. Il faudra réduire ce temps entre l'approbation du plan d'aide et les livraisons qui donnent de la force à nos gars. Cette force est réellement nécessaire pour changer la donne.
Demande pressante du président ukrainien. Sur le front, Kiev cède du terrain, dépassé notamment par l'aviation russe. Moscou revendique ce week-end la prise de Bohdanivka, un village sans intérêt militaire, mais voie d'accès à Kramatorsk, une importante plateforme logistique. Les soldats ukrainiens, fatigués par 3 ans de mobilisation.
Là, il n'y a plus d'obus. Maintenant, l'avantage de l'ennemi est bien plus grand que le nôtre en termes d'obus.
Nous avons perdu du terrain. Avec plus de moyens, nous aurions peut-être pu en reprendre. Mais nous avions déjà fait de gros efforts avec peu de moyens.
Pour montrer l'efficacité des armes occidentales, l'armée ukrainienne diffuse ces images. Celles du plus ancien navire de guerre russe, qu'elle aurait endommagé en mer Noire. Moscou reconnaît avoir été pris pour cible, mais évoque seulement un léger incendie. Ce matin, côté européen, le bras de fer avec la Russie s'intensifie, avec la fin d'un tabou pour la Pologne.
Si nos alliés décidaient de déployer sur notre territoire des armes atomiques dans le cadre du partage nucléaire, nous sommes prêts à le faire.
Réplique immédiate de Moscou.
Les Occidentaux se trouvent au bord d'un affrontement militaire direct entre puissances nucléaires, dangereux et aux conséquences catastrophiques. Il est particulièrement préoccupant de constater que les dirigeants des États nucléaires occidentaux figurent parmi les principaux sponsors du régime criminel de Kiev, l'instigateur de ces provocations.
Depuis près d'un an, le Kremlin assume pourtant transférer des armes nucléaires en Biélorussie, aux frontières polonaises.
On est content quand ils sont.
Alors, question téléspectateur, général Patrick Dutartre. Patrick, en Meurthe-et-Moselle, généreux les Américains, mais dommage qu'ils aient tergiversé. N'est-il pas déjà trop tard ?
Non, je pense qu'il n'est pas trop tard, mais il était plus que temps. Il est plus que temps parce que on l'a vu avec Advitka, qui s'est fait enfoncer, mais quelque part.
Donc cette ville qui est tombée aux mains des Russes.
Absolument, qui est à 15-20 km de Donetsk, hein, qui était un bastion historique ukrainien. Et les Ukrainiens ont dû faire un repli, mais à un coût important. Ils ont perdu des hommes. C'est pour ça que lorsque le président Zelensky dit « ça va sauver des hommes », c'est vrai. Avec des moyens sol-sol, des moyens de protection.
Donc ça va être quoi, des missiles qu'ils vont recevoir des États-Unis ?
Alors, ils vont recevoir d'abord des attaques MS, enfin c'est des missiles longue portée, enfin de sol-sol, ce qui permet de tirer à 150, peut-être 300 km avec une version. Ils vont recevoir des HIMARS, les fameux HIMARS, qui étaient des missiles aussi qui allaient à 60-80 km, mais des portées voire 150, voire 300 km. Ils vont recevoir des obus de 155 mm. Ils vont recevoir des missiles solaires Stinger. Alors qu'est-ce que c'est que ces missiles ? C'est ces missiles que vous portez sur l'épaule et pour détruire, si vous voulez, les drones iraniens, les Shahid 136 notamment. Eh ben c'est un très très bon outil. Hein. Il n'y a pas que ça, mais ça ils peuvent s'en servir. Et puis ils vont recevoir aussi des moyens dont on ne parle pas trop, alors des Patriotes, parce que j'espère qu'ils vont recevoir des missiles solaires.
Donc les Patriotes, c'est pour détruire les obus qui visent ou les...
C'est la protection.
C'est le dôme de fer.
C'est très important.
Ce ne sera jamais un dôme de fer, mais très important. Vous pourrez tirer à longue des missiles balistiques, tout type d'armement qui arrive par la voie des airs. Et enfin, une chose qui est très importante aussi, c'est les équipements que l'on va mettre sur les F-16.
Alors, ils arrivent quand ces fameux F-16 qui sont promis à l'Ukraine?
Tout combien?
Depuis, alors on parlait de 4.
On parle de 4. C'est pas beaucoup.
Non, non, mais c'est
personne ne connaît la date de livraison.
Non,
vous la connaissez.
Et heureusement, oui. Enfin, oui. Non, non, mais on s'en doute un peu. Mais il faut être assez discret là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va être un facteur très important. Poutine, plusieurs fois, a parlé des F-16. Donc c'est quelque chose qui l'obsède aussi, parce que tout le monde a peur de ces F-16. Alors on peut en parler longtemps, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. À mon sens, ils vont arriver entre mi-juin et mi-août. Voilà. Discrètement, pourquoi? Parce que l'obsession russe sera de les détruire au sol.
Et pourquoi?
Avant qu'ils volent.
Avant qu'ils volent.
D'accord.
Et l'endroit où un avion est le plus vulnérable, c'est au sol.
Confidence, Anniva, du ministre ukrainien de la Défense. N'allons pas trop dans les détails, c'est curieux comme
non, mais
tout
évidemment.
Le monde est discret. Mais il y a une période difficile à la mi-mai et au début juin.
Oui, enfin, le n'allons pas trop dans les détails, si vous voulez, ça s'appelle quand même de la com. Mmh. Parce que vous avez déjà vu un ministre de la Défense ou un représentant des services secrets militaires raconter tout. Donc ça, c'est pas possible. Évidemment que ça n'est pas possible.
Il paraît que Poutine avait sur sa table les plans de la contre-offensive ukrainienne des semaines avant qu'elle n'ait été déclenchée.
Oui, enfin, possible. Tout ça, c'est il paraît, je ne sais pas. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, les Ukrainiens disent qu'il va y avoir... de façon imminente, une offensive russe. Voilà. Et qu'ils disent qu'elle sera pour fin mai, début juin.
Est-ce que c'est de la com ou c'est...
Eh bien, écoutez, ça peut être soit un discours tactique, bien sûr, ou la réalité. Mais en tout cas, évidemment, les Russes se taisent. Tout ce que je peux vous dire, puisque moi, je ne suis pas dans les... Et je défie quiconque de l'être, ouais. parmi nous autres, dans les médias, dans les petits papiers des uns et des autres. Mais il y a une date importante, c'est le 7 mai, qui est l'inauguration... de Vladimir Poutine comme réélu président en Russie. Donc ça, c'est très important pour la Russie. Donc tous, à mon sens, il ne peut pas y avoir d'offensive russe avant. D'accord. De toute façon, ça sera après le 7
vous
mai.
Vous connaissez très bien la Russie. Ils ont encore les ressources et les hommes pour mener cette grande offensive, les Russes?
Alors, pour le moment, il n'y a toujours pas de seconde vague de mobilisation russe qui a été décrétée officiellement. Il y a un décret pour la première vague de mobilisation qui a fait couler beaucoup d'encre depuis septembre 2022. Ce décret n'a pas été fermé, c'est-à-dire qu'en fait la mobilisation continue officieusement, parce que Vladimir Poutine redoute, justement, ne veut pas en parler, ne veut pas déclarer une seconde vague de mobilisation parce qu'il sait très bien que c'est totalement impopulaire pour sa société. Donc, pour le moment, il semblerait que cela suffit. Les hommes qui sont volontaires, engagés en Russie ou qui sont mobilisés. Je vous rappelle que la Russie est grande. Je vous rappelle que la plupart des mobilisés ne viennent pas des grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Ce ne sont pas de jeunes urbains éduqués. Ce sont des citoyens de la Fédération de Russie non ethniquement russes pour la plupart. Daghestanais, Tchétchènes, Bouriates, etc., etc. qui considèrent que s'engager dans l'armée, c'est un ascenseur social et de facto, ça l'est. Ça l'était avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça l'est encore plus aujourd'hui, puisque les salaires sont multipliés par 4, par 5. Ils ont des aides pour les crédits. Pour... Donc c'est inédit, c'est eux qui sont en train de former la nouvelle élite russe. Et c'est ce que souhaite en fait Vladimir Poutine. Il est en train de modifier le socle de sa propre population.
Guillaume Lagan en disait, finalement, les Russes, ils ont le temps pour eux, ils savent ce qu'est une guerre à l'usure. Est-ce que cette aide américaine de 60 milliards change les plans de Vladimir Poutine qui se dit, bon, il faut peut-être qu'à un moment je porte les stockades et qu'on en finisse, que je fasse ma grande offensive décisive pour mettre à genoux l'ennemi tant qu'il est affaibli.
Bah écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que, objectivement, enfin tactiquement, les Russes ont tout intérêt, là, dans les jours et les semaines qui viennent, à passer à l'offensive, parce que même si ça a été voté... Les munitions, elles ne seront pas encore directement sur le sol ukrainien. Une partie vont l'être parce que les Américains ont anticipé, ils ont stocké en Europe des munitions qui vont livrer très rapidement. Mais enfin, il y a tout un ensemble de matériel qui ne sont même pas encore produits. Et je vous rappelle que c'est de l'argent qui est donné à l'industrie américaine pour qu'elle produise ces fameuses munitions. Et les Américains n'ont pas que l'Ukraine sur les bras. Ils ont Israël, ils ont aussi le souci d'avoir des munitions pour leurs propres forces au cas où il y aurait une confrontation avec la Chine. Donc c'est compliqué. Donc dans cet intervalle-là, objectivement, enfin, dans cette fenêtre-là, les Russes ont intérêt à passer à l'offensive et essayer de prendre le plus de gains possible avant que l'Ukraine se réarme. à plus long terme, compte tenu aussi de l'évolution climatique, hein, on sort de la fameuse période, vous savez, des boues, de l'hiver, donc ça recommence à être facile de faire une offensive terrestre de grand style, eh bien on peut imaginer effectivement que les Russes passent à l'offensive. Alors, quand on regarde les réseaux sociaux, mais comme me disait Aniva, c'est très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, il semblerait qu'en Sibérie, ils soient en train de former des bataillons, de les entraîner pour que ça soit, on ne sait pas d'ailleurs très bien les effectifs qu'il y aurait là, mais en tout cas, peut-être quelques dizaines de milliers de soldats qui iraient alimenter cette nouvelle offensive. Donc oui, on peut imaginer qu'ils vont le faire. Maintenant, et là je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, objectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour la Russie, ce qui vient de se passer. Eux étaient quand même sur l'idée que le supplémental, c'est-à-dire l'aide, n'allait pas être votée, qu'en novembre, Donald Trump allait arriver au pouvoir et que finalement, l'Ukraine allait s'effilocher. Là, objectivement, c'est quand même plus compliqué pour eux, à la fois sur un plan purement matériel, mais aussi sur un plan psychologique, et ça c'est très important dans une guerre. Tout d'un coup, cette Ukraine isolée, elle se retrouve à nouveau avec derrière le géant américain.
Nicole Bacharan, question téléspectateur Alain dans l'Essonne, où en est l'aide européenne? Je tiens à préciser, on vient de l'apprendre, on se demandait tout à l'heure quelle serait la réaction des Européens suite à cette aide de 60 milliards. Est-ce que les Européens n'allaient pas se démobiliser? Eh bien, on apprend ce soir que la Norvège dit envisager une hausse significative de son aide. Je cite le ministre des Affaires étrangères norvégien. La sonnette d'alarme, dit-il, a retenti à travers l'Occident. Le sentiment général est que nous devons tous en faire davantage. Est-ce que ça peut sonner le tocsin, remobiliser l'Occident européen compris, Nicole Bacharan?
Il n'y a à aucun moment, les Européens ne vont se dire « Ah bon, ben les Américains arrivent, ça va quoi, on lâche l'affaire ». Parce que si vous voulez, ce sentiment d'insécurité à l'égard du soutien américain, ça ne date pas d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même déjà à l'époque de George W. Bush, au moment de la guerre d'Irak, la vieille Europe, la jeune Europe, etc., la proximité était quand même un peu distendue. Sous Barack Obama également, l'Europe, ce n'était vraiment pas son souci premier, même s'il n'a jamais remis en cause l'OTAN. Donald Trump, évidemment, la perspective possible d'un retour de Donald Trump, et même l'évolution des parlementaires, puisque vous avez quand même la moitié des républicains qui ont voté contre l'aide à l'Ukraine. Alors ce qu'on voit, c'est que l'idée que les États-Unis ont un rôle historique, que leur influence dans le monde en dépend, que leur rôle est aussi de défendre les démocraties, que c'est à travers ça qu'ils sont prospères, influents, etc., c'est bien ancré quand même dans la population américaine. C'est aussi pour ça que Donald Trump a lâché du lest. Mais les Européens ne seront plus jamais tranquilles. Et donc, là, vous citiez cette réunion aujourd'hui. Je veux dire, le projet de produire plus, d'armer plus l'Ukraine et de s'armer plus soi-même, il est là. On sent aussi, et je terminerai là-dessus, mais que pour certains pays, dont la France par exemple, il y a un peu une inquiétude à se défaire d'un certain nombre d'armements et d'équipements, parce qu'on n'en a pas beaucoup, et parce que peut-être que on pourrait en avoir besoin pour soi-même.
C'est pour ça qu'on rechigne à les livrer à l'Ukraine, en disant qu'il faut qu'on en garde sous le pied. Général Patrick Dutartre, question sur la Pologne. On a vu, le président polonais a dit « Si nos alliés décidaient de déployer des armes nucléaires, nous sommes prêts à le faire ». C'est-à-dire que la Pologne, sur son territoire, la Pologne accepterait bien volontiers que l'OTAN, c'est ça que ça veut dire, déploie des ogives nucléaires en Pologne, alors qu'ils feraient face aux ogives
nucléaires
russes,
qui sont pas loin, hein,
russes, à Kaliningrad. Qui sont à Kaliningrad et en Biélorussie et sur le territoire biélorusse.
Absolument. Non,
alors qu'est-ce que ça veut dire ça et comment l'interpréter? Et on a vu un Lavrov fort mécontent à cette idée d'avoir en Pologne des ogives nucléaires qui seraient braquées sur la Russie, on imagine.
Alors je dirais c'est de l'Andrzej Duda dans le texte. C'est quelque chose de polonais. Les Polonais ont ça dans les tripes. Ils ont tellement subi dans leur histoire que dès qu'ils ont pu, ils sont mis sous le parapluie américain. Donc il y a une relation entre la Pologne, c'est pour ça qu'ils avaient acheté des F-16 à l'époque à la place de Mirage 2000 européens. C'est tout de suite, ils voulaient absolument, j'ai fait voler le chef d'état-major de l'armée de l'air polonaise dans la perspective de le faire qu'il achète du Mirage 2000.
Ça n'a pas marché.
Il voulait de l'Amérique.
Lui aurait bien voulu, mais politiquement, ouais, c'était politique. Le F-16, c'était américain. Et donc l'idée d'avoir un jour, mais à mon avis les Américains ne sont pas du tout prêts, je pense, sous le contrôle, à déployer des bombes nucléaires tactiques. Alors c'est quoi ces bombes? Ça fait 3,50 m de long, 350 kg. C'est des bombes donc nucléaires miniaturisées, c'est 10 fois Hiroshima quand même, qui sont mises sous des chasseurs américains, des F-15. DF-16, fameux F-16 que les Polonais aussi égrent, DF-35, la raison d'être pourquoi tout le monde, les pays otaniens, veulent acheter des F-35 à la place des Rafales, alors que le Rafale est meilleur. Et ces bombes actuellement sont déployées, le cas échéant, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Turquie, et puis bien sûr au Royaume-Uni. Et donc l'idée, mais il y avait quand même un accord tacite, si vous voulez, entre les Américains et la Russie, de dire dans les anciens pays du bloc de l'Est, on ne déploie pas de troupes permanentes, et encore moins, bien sûr, de nucléaire. Et l'idée de Duda, c'est de dire le jour
donc où... c'est le président polonais, hein, Duda.
Voilà, le président polonais, de dire si j'avais cette opportunité d'une base américaine avec des bombes nucléaires, ben, il aurait l'impression, en fait, d'avoir la dissuasion nucléaire. Donc le parapluie maximum. Alors que d'abord, c'est pas vrai. Et ensuite, en aucun cas, à mon sens, c'est pas d'actualité. Par contre, ça peut être un élément de langage, si vous voulez, de dissuasion stratégique. C'est-à-dire, dans l'escalade de... Ben, attendez, on va peut-être mettre nous quelque chose...
C'est les Occidentaux qui parlent de nucléaire, maintenant, c'est ça?
Oui, c'est Duda, hein, pour l'instant. Ouais, voilà. C'est pas sujet d'actualité.
Il faut se méfier de Duda, parce que c'est aussi lui, le président polonais, qui a dit que la Crimée a toujours été russe, alors que la Pologne est pro-ukrainienne. Hein. Mais également, pour préciser, la Pologne est le pays d'Europe qui met le plus d'argent dans sa défense. Aujourd'hui, la Pologne a un pourcentage de son PIB qui est supérieur au nôtre, supérieur à celui de la France, supérieur à tout celui des pays européens. La Pologne se remilitarise parce que la Pologne, évidemment pour des raisons historiques, la première, le fait est qu'elle est aux premières loges face à ce conflit en Ukraine. Donc ça, c'est une réalité polonaise, donc européenne, bien sûr.
Mais quand Mike Johnson, je vais revenir sur lui, dit « si Poutine n'est pas arrêté en Ukraine, il continuera son avance en Europe », est-ce qu'on peut quand même pas s'interroger? Il a eu tellement de difficultés, Poutine, en Ukraine, où il arrive à peine à avoir le Donbass, qui était déjà à moitié russe.
Osera-t-il aller en Ukraine?
On peut quand même s'interroger, non?
Oui, ben, c'est la grande question. Alors le problème, c'est que si on commence à s'interroger là-dessus, et si vous tirez le raisonnement, vous finissez par vous dire ben, pourquoi dépenser de l'argent pour la défense? Pourquoi s'inquiéter? Finalement, la Russie, elle est très affaublie, comme vous dites. 5 fois la population de l'Ukraine, je ne sais pas combien de fois le territoire ukrainien, mais beaucoup, et puis ils n'y arrivent pas. Ça fait 2 ans qu'ils consacrent une large partie de leurs forces armées à la conquête de l'Ukraine, et pour l'instant, ils arrivent à faire tomber ici et là quelques villages ukrainiens, mais enfin, ce n'est pas quand même la grande victoire. Maintenant, il y a d'autres moyens de faire. On peut aussi imaginer que la Russie, après que l'Ukraine soit stabilisée ou même conquise, elle décide de tester un peu l'OTAN sans nécessairement le faire de manière très frontale. Par exemple, imaginons que demain, dans une petite minorité de la Lettonie ou de l'Estonie,
il y ait
tout d'un coup des petits hommes verts qui apparaissent en disant nous voulons défendre les intérêts de la minorité russe qui est opprimée. On serait bien embêtés, nous, dans l'OTAN, parce que qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on serait obligé, vous voyez, d'utiliser des moyens armés contre une partie officiellement interne de cette population? C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Et donc, la Russie, elle a toutes sortes de moyens de nous déstabiliser, pas nécessairement une opération militaire frontale, mais même une opération militaire frontale, et là, je vais juste dire, il est évident que sur le plan matériel, aujourd'hui, la Russie, elle est affaiblie hein, par les pertes incroyables qu'elle subit en Ukraine. Mais en même temps, il est vrai que l'industrie russe est mobilisée, et là, pardon, mais plus que les Européens, dans la construction de munitions, dans la construction de matériel qui demain seront opérationnels. Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous a montré, la Russie? Et ça, je trouve que c'est très inquiétant. Elle nous a montré qu'elle était prête à perdre, combien? Peut-être 50 000 personnes, 50 000 jeunes hommes, pour conquérir ce territoire sans ukrainien. Problème. Est-ce que demain, la question, je la pose à tout le monde, est-ce que demain, l'OTAN sera capable, s'il y a un défi militaire de cette nature,
de faire le sacrifice de ses enfants?
Exactement.
Alors, si les forces armées de Kiev souffrent face aux assauts russes, la société civile ukrainienne, elle, tente de résister à sa manière. Certains choisissent d'apprendre le maniement des armes et le combat urbain. D'autres aident l'armée ukrainienne en fabriquant des maquettes de chars grandeur nature pour tromper l'ennemi. Vous voyez ce reportage de Magali Lacroze et Pierre Dehorne.
Quelque part dans le centre de l'Ukraine, un atelier de menuiserie un peu particulier, où les employés promettent de rester discrets sur leurs activités.
Bon alors les gars, vous en êtes où? Ça avance ou quoi?
L'équipe de Ruslan ne compte qu'une dizaine de menuisiers. Les autres sont au front, mais eux aussi participent à l'effort de guerre.
Regardez sur mon croquis, vous allez comprendre ce qu'on fait. Il découpe la partie arrière de la chenille, là.
Ruslan et ses employés fabriquent des leurres, des armes en bois, maquettes, grandeur nature, commandées par l'armée, pour tromper et épuiser l'ennemi.
Ma toute première maquette, c'était un obusier américain. Je cherchais comment aider l'armée à mon niveau. Je suis ingénieur et menuisier. Avec un copain soldat, on a pensé à ça. Et si tu faisais des armes en bois? Alors j'ai fait un prototype, je ne savais pas comment faire un blindé, c'est pas une table en bois. Alors j'ai regardé sur Internet, j'ai adapté les mesures et tout a commencé.
Ce jour-là, ils fabriquent leur 100e maquette.
Ce sera une voiture blindée d'infanterie. Ça sert à transporter des troupes. C'est un des moyens de transport les plus utilisés par nos militaires. Et donc, ce sont des cibles stratégiques pour nos ennemis.
Ces modèles plaisent particulièrement à l'armée. Quelques mois plus tôt, c'était des obusiers. La guerre avance et l'équipe de menuisiers s'adapte. Et si l'armée raffole des créations de Ruslan, c'est parce qu'elles ont quelque chose en plus.
On a intégré un compartiment métallique pour imiter le moteur. On met des bougies parce que la nuit, pour surveiller nos blindés, l'ennemi utilise des drones à caméra thermique.
Chaque maquette coûte quelques milliers d'euros, financée uniquement par des dons. Mais pour Ruslan, la meilleure des récompenses, c'est ça.
Un missile Iskander. Gaspillé. Pour un Imars en bois.
La ruse, en attendant les armes. Et dans la banlieue de Kiev, des civils qui se préparent. Natalia la grand-mère, Tetiana la comptable, des vieux, des jeunes à peine majeurs se forment au combat, au cas où.
Tu vas comprendre ce qu'il faut faire. Sous les tirs, tu vas comprendre.
Ils ont 5 jours pour apprendre à faire la guerre. À manier les armes, encadré par de vrais militaires.
Et toi, tu te prends pour Rambo? Reviens par ici.
Ce n'est pas un jeu. Tous ont des proches sur le front. Certains d'entre eux seront peut-être bientôt mobilisés. Pour les autres, l'exercice est une façon de gérer la panique.
Je suis réserviste. Je crois qu'il va falloir y aller. Et je préfère que ce soit moi plutôt que mes petits-enfants. Donc je viens ici pour me préparer.
Tout le monde devrait faire ça. Tous les civils devraient se former parce que sur le front, ils sont fatigués et un autre front peut s'ouvrir n'importe quand.
Je suis venue parce que la guerre me panique. Après avoir appris les bases, j'ai un peu moins peur.
Les voilà félicités et fiers de savoir se défendre. Combien d'entre eux seront désengagés et volontaires après ce stage gratuit? L'instructeur principal était à Barkmout. Il faut former des hommes, nous dit-il, mais surtout obtenir des munitions.
Quand tu es sur une position, que tu la tiens et que tu demandes à ton commandant l'ordre de tirer, mais il ne te le donne pas parce qu'il n'a pas de quoi tirer. Alors que tu as la machine avec toi, mais rien dedans, ça fait mal. Ça fait très mal.
Depuis le début de la guerre, 20 000 civils comme eux se sont volontairement formés au combat avant une éventuelle mobilisation.
Anniva, on admire leur courage, mais l'Ukraine a un problème de mobilisation.
Oui, l'Ukraine a un problème de mobilisation, mais avant tout, enfin, moi, dans toutes les guerres que j'ai couvertes, je n'ai jamais vu une telle symbiose quand même. Il faut le souligner, c'est très bien souligné dans ce reportage. L'horizontalité, c'est-à-dire ces possibilités d'influencer, d'avoir un impact sur comment fonctionne l'armée ukrainienne de la part des civils ukrainiens. Ah. Je n'ai jamais vu ça nulle
c'est-à-dire
part.
Qu'il n'y a pas les civils et les militaires
non,
d'un côté et les militaires de l'autre.
Non, ça n'est pas fermé du tout, comme je l'ai vu dans d'autres guerres. Il y avait une véritable ouverture. Des représentants de l'armée ukrainienne sont toujours à l'affût pour essayer d'écouter ce que dit tel ingénieur, tel autre. Moi, je l'ai vu dans la région de Mykolaïev il y a un peu plus d'un an en ce qui concernait des drones, etc. Mais on vient de le voir dans le reportage. Bon, mais ça n'enlève pas le vrai problème qui est effectivement celui de la mobilisation. Parce que la guerre dure, et toute guerre longue...
Ce sont les mêmes qui sont là depuis deux ans sur le front, il n'y a pas de rotation.
Absolument, le problème de rotation. Et dans la nouvelle loi qui vient d'être signée par le président Volodymyr Zelensky, on pensait que ça allait être ôté, ce problème. Eh bien, au dernier moment, ça n'a pas été ôté. C'est-à-dire que il a baissé l'âge de mobilisation, mais il n'a pas réussi à faire en sorte qu'il y ait davantage de rotation sur le front. Or, les jeunes Ukrainiens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur, qui sont déjà à l'étranger, bien sûr. Donc l'idée, c'est comment les récupérer.
Parce qu'ils ne veulent pas combattre.
Ils ne veulent pas mourir sur le front. Mais... C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas y aller s'il n'y a pas d'armement. Bon, là, on a cette bonne nouvelle de samedi soir. Mais il y a le problème de la rotation. Ils ne veulent pas y rester trop longtemps. Donc ce problème-là n'est pas encore réglé.
Alors que les
mais
Russes,
je dois dire que côté russe, non, il y a quand même un problème également de mobilisation. On ne peut pas dire que les Russes n'ont pas de problème de mobilisation. Ils ne l'ont pas de la même façon, mais on voit bien qu'il y a une crainte de la part du côté russe, de mobiliser. Donc, des deux côtés, il y a le problème des hommes. Même si, pour le moment, il apparaîtrait que côté russe, on s'en sort mieux.
Général Patrick Dutartre, à l'instant, Anne Niva parlait de la symbiose entre la société civile et les militaires, où on a vu l'aspect des civils qui fabriquaient des leurres de tanks. C'était efficace, ça, pour tromper l'ennemi, un tank en bois, un jouet ?
Écoutez, moi, j'ai été surpris de ça, mais dans les années 80, on faisait, par exemple, des maquettes de Mirage F1 en bois.
D'avions de Mirage.
Oui, aussi, parce que quand vous prenez des images de satellites ou d'avions, un satellite, la différence entre une maquette en bois et un avion, c'est quasiment impossible. Sauf si vous avez des détecteurs infrarouges, c'est un peu plus sophistiqué, mais une photo vue du ciel, vous avez vu, regardez, on la voit, cette maquette, elle est remarquable. Et déjà, on est en face à face. Enfin, je veux dire, la photo, elle est prise à 5 mètres, 10 mètres, mais vous imaginez quand vous prenez ça à des dizaines de kilomètres. La différence, c'est pas possible. Et donc, c'est un moyen depuis toujours, en fait, dans les guerres, d'avoir des leurres, en fait.
Sur la question que posaient et Guillaume Lagan et Anne Niva sur l'engagement d'une jeunesse qui n'a pas envie d'aller mourir au front, qui est patriote, mais voilà, il y a un moment, plutôt que me faire arracher une jambe, je refuse le combat. C'est quelque chose qui est nouveau, qui a toujours existé, qu'on peut comprendre, votre regard.
Ça a toujours existé, mais peut-être aujourd'hui plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'avaient pas le choix, il n'y avait pas les informations dont on dispose aujourd'hui, grâce à tous les reporters sur les terrains, les réseaux sociaux. Donc la réalité cruelle, dramatique du soldat sur le terrain, les jeunes sont parfaitement conscients de ça. Et donc, comme disait très justement Anne Niva précédemment, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, on ne le dit pas beaucoup, mais beaucoup de jeunes ukrainiens qui sont partis d'Ukraine et qui n'ont aucune envie de revenir. Et alors, il faudrait que cela revienne. C'est un vrai sujet. Comment les récupérer. Et puis 27-25 ans, à mon sens, c'est même pas suffisant. Il y a des soldats russes qui sont sur le front. On en a vu un qui est criminel, qui avait tué sur des civils du temps de Boutcha. Il avait 19 ans et demi. Enfin, c'est un jeune à qui on l'a dit un fusil, tu vas, tu suis. Russe, mais ukrainien, c'est beaucoup moins.
La loi ukrainienne n'a pas osé aller plus bas.
Elle n'a pas osé, exactement. Ce que dit Anne, c'est tout à fait juste. C'est qu'elle a fait un recrutement de 27 jusqu'à 25 ans, mais c'est pas suffisant.
Et pourquoi, il faut des jeunes de 20...
Je ne sais pas.
En France, on n'aurait pas de vergogne à mobiliser des jeunes de 18 ans.
Ça a toujours été le cas.
C'est-à-dire que les
services militaires, c'est 18 ans. À partir de 18 ans, ou une dérogation parentale, si vous y aviez 7 ans et demi.
La moyenne d'âge de l'armée ukrainienne, elle est très élevée.
Et ça dit
40.
Quoi ?
Oui, on est au-delà de 40 ans. Une des raisons, c'est que c'est un pays, comme tous les pays d'Europe orientale, qui a une très faible natalité, donc il y a peu de jeunes. Et puis, c'est l'idée qu'il fallait, paradoxalement, préserver la jeunesse et finalement laisser les personnes plus âgées, les quarantenaires, en gros, assumer les risques les plus grands. Alors maintenant, il y a cette nouvelle loi qui permet d'abaisser de 2 années, mais on est sur des classes creuses, donc ça ne va pas provoquer un afflux de volontaires, enfin, pas de volontaires, de conscrits. Et puis aussi, il faut le dire, au fondement de ce problème, il y a bien sûr un patriotisme en Ukraine très fort. Patriotisme, il faut bien le dire, qui était très présent chez certains segments de la population, qui sont ceux qui se sont engagés, en fait, depuis 2 ans, qui aujourd'hui sont soit morts, soit blessés, soit dans des situations compliquées. Et puis après, il y a tous les autres. Bon, vous savez, dans une société, il y a toujours une partie de gens qui sont moins politisés, moins engagés. Et eux, pour les faire venir aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a aussi une forme de... de manque de confiance dans les institutions en Ukraine. Quand on regarde les sondages, on sait que les hommes politiques sont mal vus. Rappelons que quand même, M. Zelensky, il a été porté au pouvoir pour combattre la corruption. C'était ça, au départ, son mandat. Donc je pense que tout ça explique les difficultés de la société ukrainienne à se mobiliser, qui peut nous surprendre, parce que quand on regarde le nombre en fait d'Ukrainiens qui sont effectivement dans les forces armées aujourd'hui, comparé à la population ukrainienne, on est sur un taux beaucoup plus faible que, par exemple, pour nous, pendant la Première Guerre mondiale. Vous aviez pratiquement un Français sur quatre qui était dans les armées.
Alors, depuis le début de la guerre, les alliés de l'OTAN multiplient les exercices de grande ampleur pour répondre à la menace russe. Mathieu Lignot et Dominique Lemarchand ont pu se rendre sur une frégate française en Norvège, à quelques centaines de kilomètres seulement de la frontière russe. Et vous allez le voir dans le reportage, les militaires se préparent aux scénarios les plus catastrophiques. Reportage.
Poste de combat. Nous entrons dans une zone de menace missile.
Alerte dans le cercle polaire, à bord de cette frégate française. Protection anti-feu et poste de combat pour cet exercice.
Combien de pistes ?
Deux chasseurs, tribord 30 à 20 nautiques.
Attends, sur l'arrière. Deux chasseurs, tribord 30, 20 nautiques, en rapprochement. Altitude ?
20 000 pieds.
Allez, chasseurs, 20 000 pieds. Prendre les mesures.
Deux avions de chasse ennemis ont été repérés. La frégate multimission assure la défense aérienne de la flotte de l'OTAN.
Vous voyez, actuellement, on protège un bâtiment amphibie américain qui se trouve sur l'avant, mais également un bâtiment amphibie italien sur bâbord. L'armement le plus efficace, ça va être des missiles anti-aériens et également des canons de 20 mm qui permettent de traiter une menace qui se rapprocherait.
Au poste de commandement très secret, les menaces sont suivies sur les radars. Les avions ennemis tirent 4 missiles fictifs. Il faut les abattre avant qu'ils touchent la frégate.
3-5-1-5-2-0-2-4-3-out. On appuie sur des boutons et on fait partir un missile. Ça peut être du drone, du missile qui nous viendrait dessus ou qui viendrait sur un consort.
Faux missiles, mais vrais avions. Jusqu'à 70 aéronefs et 50 navires de guerre participent à cet exercice. Steadfast Defender de l'OTAN. Une ampleur inédite depuis 40 ans. C'est le retour de la bataille navale de haute intensité.
Ça correspond à ce que l'on peut voir aujourd'hui en mer, que ce soit en mer Rouge ou que ce soit en mer Noire. On se rend compte que la menace conventionnelle est de plus en plus probable. Et donc ça veut dire que l'on change l'état d'esprit et la façon dont on s'entraîne au sein des bâtiments, comme la Normandie, pour faire en sorte d'être prêt si nécessaire.
Le capitaine ici est toujours en vol.
Pour progresser, l'exercice doit parfois mal se passer. 3 missiles ont été interceptés, mais pas le dernier.
Impact imminent sur bâbord, on voit la posture de sauvegarde. Impact dans 5, 4, 3, 2, 1, bang, bang, bang. On voit la posture de sauvegarde.
Les situations de crise s'enchaînent pour s'entraîner au pire. Un incendie s'est déclaré. Tout l'équipage est mobilisé pour s'attaquer aux flammes.
Il y a une intervention des pompiers lourds, une intervention renforcée, il y a un sinistre, donc du coup il y a une rupture des flexibles d'hydrocarbures, c'est un des plus gros dangers sur le bateau.
Effervescence aussi au poste médical.
Stand-by.
Mais lors d'une vraie bataille en temps de guerre, la médecine ne serait plus la même. Il faudrait faire des choix très difficiles.
Le plan des secours va être déjà de gérer le plus grand nombre, de faire du triage entre ceux qui ont des chances de s'en sortir et ceux qui n'en ont pas, pour gagner un minimum de temps, pour donner un maximum de chances au plus grand nombre. Voilà, mais ça, des fois, ça implique de laisser, entre guillemets, de ne pas s'occuper de certaines personnes dont on sait que le pronostic est très mauvais.
C'est là toute la singularité du militaire. Le risque et la mort sont des hypothèses de travail. Mais dans les carrés, on y pense rarement.
On est tous prêts à aller jusqu'au bout. Et moi, personnellement, je suis prêt à aller jusqu'au bout s'il le faut. Et dans le sens où, si je le fais, c'est pas forcément pour me dire, c'est pour mes collègues là tout de suite maintenant. C'est juste me dire, ma famille, si je fais ça, elle a peut-être une chance d'être. Elle peut continuer sa vie et en sécurité.
Les 146 marins de la Normandie se sont déployés pendant 2 mois au nord de l'Europe et en mer de Norvège pour cet exercice de l'OTAN.
Alors Anniva, dans le cadre de ces exercices de l'OTAN, il y a une polémique, vous allez nous en expliquer les ressorts, parce que le Charles de Gaulle doit participer à des exercices sous commandement de l'OTAN. Et
absolument.
Pourquoi ça fait polémique ?
Ça fait polémique parce que nous avons eu droit à un tweet posté par Jean-Luc Mélenchon qui immédiatement a... Donc ce tweet, il y a deux phrases. La première phrase, elle est... c'est un fait. La deuxième, c'est son interprétation. C'est la deuxième qui pose problème. La première phrase, il a dit « Pendant 15 jours, le Charles de Gaulle, le porte-avions français Charles de Gaulle sera
symbole de la souveraineté.
Sous commandement de l'OTAN. »
Ah, oui.
Et c'est vrai.
Non.
Et la deuxième chose, c'est terrible, c'est une vassalisation. C'est là la polémique. Mmh. Non, mais quand on dit sous commandement de l'OTAN, on sait parfaitement ce que ça veut dire. De toute façon, l'OTAN n'a pas d'armée en propre. Donc l'OTAN est constituée de différents segments d'armée des pays qui la composent. Et de toute façon, si j'ai bien compris, mais le général Patrick va le confirmer, s'il se passait quelque chose pendant ces 15 jours, ça va durer que 15 jours, c'est réversible. C'est-à-dire que immédiatement, dans la minute, c'est réversible. C'est-à-dire en fait, il ne sera jamais sous un commandement autre que français, d'accord. Si je comprends bien, oui. le porte-avions. Mais le fait qu'on le dise, qu'on fasse des exercices de l'OTAN, pose un problème à Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est ça dont il faut parler. Parce que l'OTAN, c'est ça. Le principe même de l'OTAN, c'est que ce sont les différents États membres. Nous ne possédons pas une armée de l'OTAN.
Oui, Général Patrick Dutard, d'ailleurs, ces exercices de l'OTAN, il y a combien de pays dans l'OTAN ?
Ils sont très importants.
Trentaine, voilà, 32. C'est un message aussi envoyé, on fait ça à la frontière russe.
Bah oui.
C'est vraiment un message en disant, attention, là on est 32 nous. Hein.
Oui, exactement. On est en mer de Norvège, ça s'inscrit dans un exercice qui est beaucoup plus large, qui s'appelle Steadfast, qui a commencé en janvier de 2024, qui se termine le 30 mai. Donc il y a multiples aspects, à la fois maritimes, comme on vient de le voir, au large de la mer de Norvège, entre guillemets, la Norvège, on est loin quand même du front, hein, parce qu'il y a la Norvège, la Finlande, et puis après la Russie. On n'est pas en mer Baltique, là, dans cet exercice. Maritime, terrestre, aérien, parce que vous savez que les Français, on envoie des chasseurs en permanence dans le ciel des pays baltes, hein, ou en Roumanie, donc ça en fait partie aussi. Et on ne passe pas sous commandement de l'OTAN, sous contrôle opérationnel de l'OTAN. C'est totalement différent. Quand on parle de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN propose aux différents pays des exercices et ensuite on en assure la coordination. Donc là, effectivement, c'est une première d'ailleurs, le porte-avions Charles de Gaulle pendant 15 jours passe sous contrôle opérationnel. Ça veut dire que le commandement sud lui dit, ok, vous, si vous voulez bien, vous êtes d'accord, ok,
bah,
vous
êtes tourné ici. Quels sont les pays qui décident, qui contrôlent?
Il y a une quinzaine de pays, bah, c'est l'organisation de l'OTAN. Ça veut dire que vous avez des états-majors pour le sud de l'Europe, pour le nord de l'Europe, Centre-Europe, et puis là, on définit les exercices.
Enfin, alors, Nicole Bacharan, est-ce que cet OTAN, tout peut s'arrêter en novembre prochain si Donald Trump est élu? On l'a appris, il veut sortir de l'OTAN,
oui.
Il l'avait dit en 2018.
C'est pas si simple. Les parlementaires américains ont voté il y a 2 ans une loi exigeant que pour sortir de l'OTAN, le président américain, qui auparavant aurait pu le faire de son propre chef, doivent avoir une approbation du Sénat. Mais la constitutionnalité de cette loi, elle n'est pas solide. Et au fond, si Donald Trump veut sortir de l'OTAN, il n'a pas besoin de signer un papier. Il suffit de diminuer les crédits, il suffit de retirer des troupes, il suffit de dire à plusieurs reprises, ceux qui ne payent pas, de toute façon, je ne les protège pas. Il suffit de dire aux Russes, bah, vous faites ce que vous voulez. L'OTAN...
C'est déjà ce qu'il a un peu dit.
Et voilà, exactement, il suffit qu'ils le redisent.
Il a sapé la crédibilité de l'OTAN.
L'OTAN s'est basé sur la dissuasion. Comme vous dites, on est 32, ne nous touchez pas, en quelque sorte, sinon tout le monde arrive. Alors c'est vrai que le caractère automatique de la riposte de l'OTAN n'est pas totalement automatique, mais enfin il y a un principe que tout le monde connaît, tous pour un pour tous, il y en a un qui est attaqué, tous les 31 autres arrivent. Donc, le langage politique fait que l'OTAN peut être minée sans même que Donald Trump en sorte. Et je voulais juste ajouter un mot sur le Charles de Gaulle, parce qu'effectivement, la polémique, elle est quand même super vaine. C'est que le Charles de Gaulle, comme d'autres navires d'autres pays de l'OTAN, il est construit avec la notion d'interopérabilité. C'est-à-dire que des avions américains peuvent se poser sur le pont du Charles de Gaulle. Les avions français peuvent se poser sur un porte-avions américain si c'est nécessaire. Et ça existe depuis le début des plans Donc, c'est conçu pour être un navire qui fonctionne en interopérabilité au sein de l'OTAN. Donc, après, on peut se dire qu'électoralement, on a envie d'agiter la vassalisation, mais c'est faux.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Anne Niva, question de Daniel dans le Morbihan. Comment Poutine a-t-il réagi au vote américain ?
Poutine n'a absolument pas réagi au vote américain parce que c'est comme ça en Russie. C'est-à-dire Vladimir Poutine ne réagit pas. Ce sont d'autres qui réagissent à sa place, bien évidemment. Donc c'est Dmitri Peskov, son porte-parole, qui a immédiatement réagi. Plus une autre personnalité qui réagit toujours, en fait, le premier, même avant Peskov, c'est Dmitri Medvedev, l'ancien président de Russie, qui fait des postes absolument abominables. Voilà, pas dans la dentelle. Donc on a eu droit, et puis ensuite, il y a des représentants du MID, du ministère des Affaires étrangères, qui réagissent. Mais évidemment, tout le monde a réagi pour minimiser, pour dire que, en fait, ce vote allait continuer, prolonger la guerre, et prolonger les crises, et que les États-Unis finançaient toutes les crises dans le monde. Voilà, la réaction russe.
Guillaume Lagan, question téléspectateur. Le soutien occidental limité à Kiev s'explique-t-il par la crainte que l'Ukraine déclenche une escalade en frappant en Russie ?
L'Ukraine, elle frappe déjà en Russie.
De façon plus massive nous entraînant.
Alors, il est vrai que les Occidentaux, depuis deux ans, ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que les armements qu'ils livrent à l'Ukraine soient utilisés par l'Ukraine sur le territoire russe. Ils ont fait une exception, bien sûr, pour la Crimée, qu'ils considèrent comme étant appartenant à l'Ukraine. Mais oui, on peut dire globalement qu'on peut répondre oui, c'est-à-dire effectivement la peur des Occidentaux ou de certains Occidentaux, ça a été une escalade avec la Russie, état nucléaire, qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Donc toute la politique d'aide à l'Ukraine depuis deux ans, elle est un peu sous l'ombre de cette menace. Et c'est pour ça qu'elle a été progressive, partielle, qu'elle n'a probablement pas été suffisante dès le départ. Parce que certains observateurs se disent que si on avait dès le départ donné à l'Ukraine tout ce qu'on lui a donné ensuite, rappelez-vous, il y a eu des débats sur fallait-il donner des blindés, fallait-il donner des avions de chasse, fallait-il interdire le ciel ukrainien aux avions russes. Tous ces débats sont en partie derrière nous. Et peut-être que finalement, en ne livrant pas au départ, on a prolongé ce conflit.
Général Patrick Dutartre, Mathias en Indre-et-Loire. En plus d'aide financière, le président ukrainien va-t-il avoir besoin un jour d'hommes ?
Il en a déjà besoin, mais je pense que pour l'instant, c'est hors de question.
Il le dit lui-même.
Il le dit lui-même, d'ailleurs. C'est hors de question.
Des mercenaires, il y en a déjà ?
Il y en a pas vraiment les mercenaires, des volontaires, de certains pays, quelques Français, d'ailleurs. Mais non, aujourd'hui, c'est absolument pas l'ordre du jour. Et d'ailleurs, tout le monde le répète, les Américains ne sont pas en guerre contre la Russie. L'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. La France n'est pas en guerre contre la Russie. On est là, on veut protéger ce pays qui a le droit de vivre démocratiquement.
On parlait tout à l'heure de l'âge relativement âgé, hein, plus de 40 ans, de ceux qui combattent à la frontière du Donbass. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un désavantage que d'avoir 40 ans ? Ou bien non, justement, c'est un âge où on a plus de maturité, on peut davantage encaisser les coups, on est moins fragile. Ou est-ce que non, avoir 18 ans et être rapide et agile, c'est important dans les guerres modernes, en général.
C'est mieux d'avoir 40 ans.
On a besoin de... Non.
Même 50,
d'accord.
D'ailleurs.
Non. Non, c'est une question de maturité de soldat, en fait. Hein. Vous savez, c'est un engagement. Quand vous arrivez face à la mort, parce que vous regardez la mort en face, c'est très personnel, en fait. Il y a des gens qui s'effondrent. Et souvent, d'ailleurs, nous, on appelle ça, excusez-moi l'expression, mais les grandes gueules du temps de paix ne sont pas les grandes gueules du temps de guerre. C'est-à-dire que
on voit qui est courageux.
Les caïds sont comme ça, ils peuvent être comme ça.
On a vu ça. Il y a des gens qui et puis le jour où ils sont face à vraiment l'ennemi et qu'ils risquent de mourir, ben vous les voyez plus. Ou alors vous entendez plus. Et alors des gens qui ne parlaient jamais, d'un coup se montrent d'un courage absolument incroyable. Donc c'est surtout une question de tempérament. Mais c'est vrai aussi qu'il faut des jeunes, des personnes gaillards et des personnes résistantes. Mais actuellement les soldats ukrainiens, tout âge confondu, font preuve d'une résistance admirable par les Occidentaux.
Les centrales électriques touchées lors des derniers bombardements ont-elles pu être réparées au moins partiellement ?
Ben oui, ils réparent tout de suite, les Ukrainiens. Ils réparent tout de suite, mais ça a été dit, je crois, par le président Zelensky hier ou avant-hier. Là, ils ont plus de mal parce que c'est 80% de leurs centrales qui ont été touchées. C'est effectivement une stratégie côté russe. Et sans cette aide bienvenue américaine, évidemment, ils auraient eu... Là, ils étaient en train de faire pratiquement que ça, donc... Là, ils vont pouvoir faire ça, plus autre chose.
Guillaume Lagan, si Zelensky devait mourir, l'Ukraine perdrait-elle la guerre? Ça m'a frappé. Tout à l'heure, il donnait une interview à Hugo Décrypte. Sur son verre, il y avait un cache comme si, en permanence, il craignait d'être empoisonné.
Bah, ce qui est certain, c'est que depuis 2 ans que la guerre a commencé, il est le visage de l'Ukraine et il est... de par le système politique ukrainien, au centre de toutes les décisions. C'est quand même lui qui a décidé, par exemple, de débarquer M. Zaloujny et de nommer un nouveau chef d'état-major. Donc sa mort serait incontestablement un coup dur pour l'Ukraine, d'autant qu'on ne voit pas tellement autour de lui de personnalités émerger.
Bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairés et d'y avoir participé. Bonne soirée sur France 5. Demain, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.